te, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatal. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et de vous retirer sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas
de inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, je suis Légo de Léry à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons. Et bien évidemment, en Radio Primitive où cette émission est réalisée. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, je crois que notre première partie d'émission sera consacrée à ce qui s'est passé à Amiens le 19 et 20 octobre, c'est-à-dire le procès en appel des Goudieur. En première instance, il faut rappeler qu'au mois de janvier, ils avaient été condamnés à de la prison ferme. Là, il y avait un appel militant de se rencontrer à Amiens pour les soutenir. Et il y a eu un son qui a été fait à Paris, actualité des luttes, bien évidemment, Reims, Paris, fréquence plurielle, qui donc, on va couper ça en deux morceaux. Camille, tu disais?
Non. Tu disais qu'il n'avait pas branché son micro, voilà. Et on en avait parlé ici plusieurs fois. Oui. Là, ça sera l'occasion de donner la parole à ceux qui étaient présents ce jour-là. Vous pouvez toujours réécouter les émissions de l'Égrégore si vous voulez avoir les analyses. Et puis là, on verra directement la parole des premiers concernés. Puis après, on parlera de toute autre chose. On se retrouve dans une demi-heure, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok.
Rassemblement de soutien autour du procès des Goudière le 19 et 20 octobre à Amiens.
Résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade.
Vous m'épatez parce que ceux qui disaient que la lutte dans notre pays n'avait plus d'avenir vont devoir bien regarder ce qui se passe aujourd'hui à Amiens. Alors je vais vous faire un petit compte-rendu rapide de ce qui s'est passé en audience. Je peux vous dire, et je pense ne pas me tromper, que quand on a en face de nous un procureur et des juges qui n'ont aucune information contradictoire à nous opposer, que pendant des heures, nous leur disons que nous avons été victimes d'un piège, que cette séquestration n'a jamais existé comme Air France pour la chemise déchirée, et que nous sommes des victimes et non pas des coupables, et que le juge termine en rigolant, moi je reste persuadé que la relaxe, mes camarades, on va certainement l'obtenir. Et vous savez pourquoi on va l'obtenir? On va l'obtenir surtout parce que vous êtes présents, parce que la lutte de classe, mes camarades, fera face à la justice de classe. Il reste encore 2-3 collègues à passer après-midi, ensuite ça sera les témoins. Pendant plus de 2-3 heures, on a eu face à nous des affirmations sans aucune preuve. Même le procureur aujourd'hui ne sait plus quoi dire. La seule chose que je lui ai dit, c'est que je peux me demander ce que je foutais dans un prétoire, alors que je n'ai rien fait, que je suis chômeur comme 800 autres de mes camarades, et que la violence sociale, c'est les 12 camarades qui sont décédés depuis la fermeture de notre usine. C'est ça la violence sociale. Et que les vrais bandits, ceux qui ont fermé notre usine, eux s'en foutent plein les poches. Ça verse des dividendes et des royalties.
partout où les multinationales font valoir la misère, partout nous devons leur répondre par le tous ensemble et l'unité la plus large possible. Il va falloir, avant demain, obtenir une date qui va correspondre à la poursuite du mouvement sur la loi travail. Parce que la loi travail, on n'a pas gagné, mais on a loin d'être perdu. Il n'y a pas de baroud d'honneur. Le baroud d'honneur, c'est quand on aura gagné, comme pour nous quand on sera relaxé. C'est le baroud d'honneur sur une victoire. On peut gagner partout en France, dans des centaines d'entreprises. Des camarades se battent et obtiennent des victoires parce qu'ils s'unissent avec les syndicalistes et ils vont chercher ce qui leur est dû, à savoir quand une multinationale fait 3,5 milliards de profits, plus d'un milliard de dividendes, elle n'avait aucune justification à nous licencier. Et comme on veut occulter la vraie problématique des fermetures qui sont liées à de la spéculation financière, on veut trouver des boucs émissaires, comme chez Air France, comme chez Goodyear, comme chez nos camarades Dockers du Havre ou à la SNCF. Trop, c'est trop, c'est terminé. Nous allons reprendre ce qu'ils nous ont volé. La CGT, mais aussi tous ceux qui pensent, comme nous, que la rue doit reprendre ce qui lui appartient, doivent exiger de toutes les structures à la mise au débat dès demain, la poursuite du combat sur la loi travail. Nous ne pouvons pas arrêter parce que trop de copains y ont laissé des morceaux de leur vie. Le camarade qui a perdu un œil et d'autres ne comprendraient pas pourquoi on arrêterait alors que le 15 septembre, il y avait des centaines de milliers de camarades dans la rue qui demandaient le retrait de la loi travail. Il faut exiger un nouveau 14 juin à Paris tous ensemble. On a les moyens. On a les moyens. N'attendons pas que les effets de la loi travail se produisent dans les établissements et les entreprises. Pour réagir, il sera trop tard. Ça sera de la machine à broyer. Et après, ça sera de taffeta. Après la loi Macron. Après la loi Rebsamen. Jusque où ils vont nous mépriser avant qu'on reprenne ce qu'ils nous ont volé. Il va falloir que tous ensemble, dans la rue, on renouvelle le plus souvent possible ce genre d'initiative. À Amiens, on est parti le 13 janvier. On a commencé par Marseille et on a fini par Paris. On a fait des dizaines et des dizaines de comités de soutien venant de camarades de la base qui bien souvent ont dû souffrir pour pouvoir imposer qu'aujourd'hui à Amiens on puisse se rassembler. Parce que oui aussi il va falloir qu'on regarde dans nos structures comment on bouscule, comment on change les choses, comment la base reprend ce qui lui appartient. N'attendons pas 2017, n'attendons rien de ceux qui nous laissent croire que dans une démocratie, parce qu'on vote, ça va changer. C'est à nous dès demain qu'il appartient de donner à nos gamins le monde qu'ils méritent. Jamais il y a eu autant de fric dans notre pays et jamais il y a eu autant de pauvreté. On est bien plus nombreux qu'eux. Et bien maintenant, on arrête de discuter, on arrête de dire que c'est pas possible, on se met tous ensemble, on y va, on gagne, et ensuite, si on obtient la relaxe, je vous promets que l'on fera un rassemblement à la hauteur de ce que vous êtes, à la hauteur de cette victoire. Parce que la relaxe, si nous l'obtenons, ce sera la démonstration que par la mobilisation, on gagne. Et ça, ça les emmerde. Parce que oui, on gagne. On gagne partout dans notre pays. Vous comprendrez aisément qu'on va essayer de prendre un peu de force pour pouvoir répondre coup pour coup. Enfin, si on peut parler de coup pour coup, le match, il est truqué. On va gagner d'avance. Voilà, on est des vrais boxeurs, comme dirait mon camarade Paco. Box. Et on va boxer. Voilà, donc moi, je tenais une fois encore à remercier, et ils vont se reconnaître, toutes celles et ceux qui, avec leurs petits moyens, nous ont aidés à construire ce rassemblement contre vents et marées. Ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, on apporte la preuve que quand la base veut, elle obtient. Et la base, elle veut continuer à se battre. Et la base, c'est nous. Et tous ensemble, nous arriverons à faire changer les choses dans la rue. En tout cas, je vous dis un énorme merci au nom des 8 camarades de Goodyear. Mais surtout, merci pour tous ceux qui se sentent isolés dans leur combat. On doit s'organiser pour être au plus près de ceux qui souffrent. Voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire encore, merci, bravo et à tout à l'heure. Merci mes camarades. Et comme je le disais tout à l'heure, je vous aime. et relax. Tous ensemble, ouais, ouais. Et je tenais encore à remercier particulièrement les camarades des structures, à la fois Infocom et SIP, tous les comités de soutien. Et si ce soir on avait une bonne nouvelle, bah je vous paye un verre à tout le monde. Voilà. Et c'est pas moi qui paierai, c'est la Confédé, j'ai eu l'ordre, hein, c'est bon.
Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser donc t'opérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris France Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'inflictes des visages, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent, reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise, si tu penses qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade.
Alors donc ce 19 octobre 2016, on est à Amiens et c'est la fête de soutien au 8 de Goodyear, puisque c'est aujourd'hui, c'était deuxième jour de cette mobilisation. Et donc là, je suis avec
Frédéric Erwin, secrétaire général du syndicat CGT ouvrier employé du CHRU Lille.
Qu'est-ce que ça représente pour vous ce procès ?
Mais ce que ça représente, c'est exactement ce qu'on vit nous dans la fonction publique. Ce que Michael Wamin, les 8 de Goodyear vivent, on l'a vécu récemment avec 15 camarades de la CGT du CHRU Lille pour être mis en cause pour une séquestration dans le cadre du travail. Exactement ce que nous a dit la police.
Tu pourrais me développer un petit peu ça, ce qui s'est passé justement ?
Si je te développe, je te dirais que déjà ça remonte à août 2014, les faits. Donc en fait, il y a trois camarades dans un service, enfin j'ai trois camarades, il y en avait une qui était syndiquée, qui nous ont alertés en nous disant on nous appelle pour aller travailler dans un autre service à la fin de notre journée. Quoi. Et donc elles ont refusé, elles en avaient ras-le-bol, parce qu'elles travaillent déjà suffisamment comme ça. Et donc elles ont refusé d'aller travailler dans un autre service. Et on s'est retrouvés dans le cadre du droit de retrait. Elles ont refusé simplement d'obéir.
D'accord. Et donc, comment après ça s'est poursuivi au niveau riposte de votre côté ?
Eh bien, simplement, il y a encore un droit qui existe avec le CHSCT qui dit que quand on fait valoir son droit de retrait, on ne peut pas prendre de sanctions disciplinaires. Or, dans la fonction publique, il y a plein de sanctions qui ne sont pas appelées sanctions disciplinaires. Et ces filles-là, elles en ont été la victime en novembre donc 2014, donc 4-5 mois plus tard. Elles ont eu gel de notes, report de stage, des choses qu'on n'appelle pas disciplinaires. Et on est venu à 15 mains de la CGT pour assister à un rendez-vous qui leur a été donné par la direction et deux cadres qui ont accepté de rentrer dans la salle, bizarrement, comme Air France un petit peu. Et donc, on a assisté à cette réunion et le départ de la réunion qui a fait que la réunion s'est mal passée, c'était tout simple, c'était « Mesdames, vous avez des droits, mais vous avez surtout un devoir, celui d'obéir. » La réunion s'est presque immédiatement terminée là-dessus.
Et donc ça signifie aussi, parce qu'on le voit dans d'autres villes, qu'il y a vraiment actuellement au sein de l'hôpital de grosses difficultés pour exercer un métier qui touche l'humain aussi.
Non mais il y a des difficultés pour exercer, c'est une chose. Tout le monde se bat tous les jours pour soigner les autres. Le problème, c'est qu'il y a une limite. Et je pense que cette limite, on l'affiche aujourd'hui avec les Goodyear. Cette limite, c'est... On peut aider, on peut faire dans... jusqu'à ce qu'on puisse plus, jusqu'à ce qu'on dise non. Le problème, c'est que quand on dit non, on nous dit bah, « vous devez obéir ». Et on n'obéira pas.
Je crois que c'est important parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir comme ça cette impression que les choses elles sont acquises et puis que on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et là, dans le milieu de la santé, parce qu'on voit quand même un basculement depuis plusieurs années, la santé devient une espèce comme une entreprise, quoi.
Et la santé, c'est devenu une entreprise depuis 2004. On a une loi qui a imposé la tarification à l'activité. Donc, la santé, bien sûr, et la santé, elle est soumise à ça. Ça veut dire qu'il faut produire de l'activité pour avoir des revenus. On est devenu une entreprise de soins. On fait du soin, on est une entreprise, on cotifie les soins, machin. Et les copines qui ont été mises en cause, finalement, elles sont dans ce cadre-là. Elles sont dans du SSR, donc on n'est pas encore vraiment à tarification à l'activité. Mais on n'en est pas loin. Il faut produire du soin. Il faut produire. Et le problème, c'est que les services de soins, bah, j'étais des bonnes sœurs dans le temps, mais le soin, c'est autre chose. On peut pas, on n'est pas dans la production, on est dans l'attention à chacun. Enfin, ils ont détourné complètement ce qu'on fait. Ceci dit, moi je suis du Nord. Heureusement, dans le Nord, il n'y a pas encore trop d'entreprises privées. Mais qu'est-ce qui lorgne sur le soin? Ceux qui savent que la Sécu, elle fait 10 milliards de recettes et dépenses chaque année. C'est énorme. Donc le système capitaliste, il cherche qu'à une chose. Venir chercher chez nous des recettes sans soigner les gens. Moi, alors que moi, je suis là juste pour soigner les gens.
Oui, c'est tout le paradoxe de tout ça, parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, c'est de l'humain, c'est de respect de l'humain, de la bienveillance. La bienveillance, c'est difficile justement dans ce cadre-là de garder la bienveillance, parce qu'il en faut quand même de la bienveillance pour les êtres humains. Et là, du coup, c'est quand même difficile ça à garder dans ce contexte-là. Et il faut créer des îlots de résistance justement à ça. Et plus que ça, peut-être même d'ailleurs.
Ouais. Le mot bienveillance, je l'aime pas moi. Il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a que de la bien-traitance, on va dire. Mais c'est pas une question d'argent. Normalement, un État, il soigne sa population en fonction de ce qu'il veut la soigner. À Cuba, on n'a pas besoin d'argent pour les soigner. Ils sont mieux soignés que chez nous. Donc c'est tout. La chose se résume là.
Ben, merci à toi.
Merci.
Relax pour la nuit de Goudieu. Relax pour la nuit de Goudieu. Relax pour la nuit de Goudieu.
Bon, bonjour, vous venez de Belgique pour soutenir bonjour. Les 8 de Goudieur et puis demander la relax de tous les inculpés de notre mouvement social contre la loi travail en France. Donc vous venez de quelle ville?
Donc moi je viens de Liège, je suis élu au PTB, donc parti à gauche de la gauche, au niveau wallon, au niveau belge. Et c'est clair qu'on ne pouvait pas passer l'événement et c'est clair qu'on devait être là pour être solidaire et pour montrer notre solidarité aux camarades qui notamment ont subi la répression de l'État.
Je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est que vous aussi, parce que ce n'est pas du tout un phénomène français, vous avez eu les mêmes lois qui sont passées ou qui ont tenté d'être passées en Belgique et un mouvement.
C'est ça. Donc on a en Belgique ce qu'on appelle la loi Peters, du nom du ministre de l'Emploi qui a pondu le texte, mais ça ressemble presque trait pour trait à la loi El Khomri qui existe en France, avec pour but de rendre les travailleurs super flexibles, d'étendre la journée de travail jusqu'à 11 heures, la semaine de travail jusqu'à 50 heures, et parallèlement à ça, de diminuer les droits et les compétences des organisations syndicales dans les entreprises.
C'est assez comique.
Donc d'interdire par exemple aux syndicats de donner leur avis sur l'imposition du travail de nuit dans le commerce par correspondance, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Et c'est aussi dans les projets du gouvernement de diminuer la protection légale des représentants syndicaux à l'intérieur des entreprises. Et donc on voit qu'il y a vraiment un parallèle entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Belgique et ailleurs dans d'autres pays d'Europe, en Espagne, en Italie, ils ont aussi ce genre de projet. Et donc nous avons aussi eu un mouvement dans les rues avec les organisations syndicales et les associations de la société civile. Je dois dire que le mouvement que vous avez connu en France au printemps et qui n'est pas terminé, j'espère, est un peu exemplaire pour nous parce que vous avez eu la constance pendant 4 mois d'organiser tout le temps des manifestations, des assemblées. Il y a eu les nuits debout, il y a eu les occupations de zoning, il y a eu plein d'initiatives différentes qui ont fait que pendant 4 mois ça n'a pas arrêté. Et pour nous c'est vraiment très très important parce qu'il y a une grande créativité dans les actions que vous avez organisées. Et pour nous c'est
dans les formes aussi.
Et dans les formes, c'est de l'inspiration pour nous. On doit étudier d'un peu plus près comment vous vous y prenez.
Eh ben écoutez, parce que nous aussi, on a un peu regardé ce que vous avez fait. Et pour du coup, pour le TAFTA, vous avez assuré grave. Parce que l'air de rien, du coup, vous pouvez peut-être même le fait que vous ayez refusé le TAFTA sur la Belgique ou une partie de la Belgique, ben, fait que peut-être cette saloperie ne va pas nous atteindre. Merci, c'est sympa.
Ben, écoute, c'est clair qu'on y est clairement pour quelque chose. Donc, ce qui veut dire, bon, le paysage politique belge est un peu compliqué, même très peu de Belges le comprennent consciemment, c'est pas évident avec toutes les institutions qu'on a. Mais enfin, en région wallonne, il faut quand même dire que le PTB, dont je suis un député régional, ben, on monte beaucoup dans les sondages et le PS en a très peur. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, sur les revendications qu'on a, ben, ils sont obligés de suivre parce que, ouais, ils voient que les choses, que les lignes bougent, que les gens sont de plus en plus conscients de toutes les dérives d'un système et que ce n'est pas anodin et que c'est vraiment un système. Et que, je vais dire, la répression, pour en revenir un peu à ça, parce que c'est ce qui un peu nous rassemble aujourd'hui, que la répression, ben, elle est là vraiment au-delà des frontières. J'ai des camarades qui ont été militants syndicaux et qui le sont toujours d'ailleurs, mais qui sont aussi poursuivis par une section de l'antiterrorisme de la police en Belgique. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que maintenant, quand on est résistant, quand on lutte socialement, ben, on devient terroriste. Bon, il n'y a pas de surprise là-dedans, parce que quand même, on n'est pas des naïfs, on sait quand même que le système se protège, mais c'est toujours intéressant de voir que les dynamiques d'une frontière à l'autre, d'un pays à l'autre, sont exactement les mêmes. Les lois sont les mêmes, qui veulent donner ben, tout le bénéfice, tout l'avantage aux multinationales, parce que le CETA, c'est vraiment ça. Quelque part, la loi travail, c'est ça. La loi Peters, c'est ça en Belgique. Donc, c'est vraiment donner tout le pouvoir au monde de la finance, au monde des multinationales, et de voir que ce qui se passe en Belgique se passe en France, et que la résistance aussi, elle est en France, mais au-delà, en Espagne, au Portugal, en Italie, je veux dire en Allemagne même. Donc, il y a des résistances partout. Et c'est toujours intéressant de voir que les résistances sont partout et qu'on n'est pas les seuls martiens, parce que des fois...
Ah ouais, mais du coup, on se dit que ben, ça nous ferait vachement du bien. C'est bien que vous soyez là aujourd'hui pour nous raconter ça, parce que même vous ne l'avez pas assez raconté. C'est-à-dire toute la mobilisation qu'il y a eu aussi en Belgique. Parce qu'on devrait se nourrir, parce qu'eux, ils s'organisent au niveau européen et au niveau mondial. Quand est-ce que nous allons nous organiser au niveau européen et au niveau mondial?
C'est clair, c'est clair, c'est l'objectif. Mais d'abord, je crois qu'on doit apprendre les uns des autres. Ouais. Et c'est l'occasion des journées comme aujourd'hui de pouvoir aussi rencontrer beaucoup de camarades français et de pouvoir échanger sur les dynamiques, sur très concrètement comment on fait pour rassembler les gens, pour essayer de les mobiliser et surtout de les conscientiser. Donc, c'est vraiment, voilà, et je vais dire, révolution et impatience sont incompatibles. Donc, on sait que c'est long, on sait que c'est dur, on sait que c'est difficile, mais vraiment, on n'est pas des naïfs, on n'est pas des enfants, donc on a été éduqués, on a une certaine conscience de la lutte de classe, on sait ce qu'elle veut dire, on essaye de la mettre en place, et c'est vraiment pas facile, mais on travaille, et alors c'est ça qui est bien, justement, quand je dis, on rencontre, enfin, moi, personnellement, je rencontre des camarades français, des camarades hollandais, des camarades allemands, des camarades luxembourgeois, des camarades de tous les pays, et on voit que la dynamique est là, et l'intention de se mettre ensemble, maintenant, concrètement, les actions concrètes qu'on pourra mettre en place, elles ne sont pas encore établies, mais la volonté déjà est là, et dès lors que la volonté est là, je veux dire, c'est déjà un grand pas, au-delà de toutes nos étiquettes qu'on peut avoir.
Rajouter aussi que au niveau de la mobilisation du monde associatif, il y a eu de la part des gouvernements régionaux toute une série de décisions qui vont peser très fort sur tout ce qui est mouvement de jeunesse, associations sportives. Ils ont coupé dans les subventions.
Carrément,
et donc les gens se rendent compte qu'ils vont avoir de moins en moins de moyens pour pouvoir justement continuer leur activité. Ouais. Et c'est ça qui a fait qu'ils se sont mobilisés et qu'ils se sont dit, tiens, on est au fond dans la même situation que les travailleurs. Les travailleurs, on leur bloque leur salaire, on organise la flexibilité. Nous, on nous coupe nos subventions, donc on se retrouve sans argent. Ouais. Donc si on veut récupérer des moyens pour nos associations, il faudra qu'on se batte ensemble. Et c'est ça qui a fait qu'on se retrouve dans les mêmes actions et dans les mêmes initiatives, voilà.
Pour donner un peu plus de compléments d'information, parce que nos réalités, on ne les connaît pas tous les uns les autres, c'est que l'État, le pouvoir politique, s'est désengagé de plus en plus de la société civile. Donc de plus en plus d'ASBL ont vu le jour, qui s'occupent des précarisés, qui s'occupent des travailleurs sans emploi, qui s'occupent des jeunes, des personnes âgées. Donc de plus en plus d'ASBL, associations sans but lucratif, ont vu le jour, mais dont on rabote de plus en plus les subsides. Donc ça veut dire que même elles ne savent plus mettre en place la mission pour laquelle elles ont été créées. Et ça pose vraiment un gros problème, c'est la réduction des budgets à tous les niveaux. Mais ça, on la connaît en France, on la connaît en Belgique, on la connaît au niveau européen. Donc...
Ils coupent tout au niveau social, hospitalier, éducation, loisirs, bon ça on les connaît, et puis ils mettent tout ça sur les taux, les flics,
C'est vraiment le contrôle. Ce qu'on appelle aussi le secteur non marchand, le secteur associatif, le secteur d'aide aux personnes, qui vraiment maintenant est mis en grande difficulté, en énorme difficulté, avec aussi une chose, c'est les communes, donc les municipalités en Belgique, sont de plus en plus dans la difficulté par rapport à leur budget. Donc, mais je veux dire, et c'est ça qui est quelque part intéressant de voir, c'est que les réalités en France, les réalités en Belgique, que ce soit au Luxembourg, en Allemagne, comme je le répète, en Hollande ou partout, donc la dynamique est la même. Et sur cette base-là, je crois qu'on doit pouvoir s'organiser déjà au niveau national, au niveau régional, au niveau national, mais qu'on doit pouvoir s'organiser au niveau international pour voir comment agir et ce qu'on doit mettre en place.
Eh ben on va voir ça. Et question subsidiaire, nous on a vu des images là sur, lors de votre mouvement là, d'un syndicaliste qui couche un flic particulièrement violent, qui agresse plein de manifestants, etc. Et ce mec-là qui se retrouve relativement emmerdé là aujourd'hui parce que il défendait ses camarades, il se défendait lui-même et puis il se retrouve inculpé quasiment de tentative de meurtre ou je sais pas quoi. Et du coup, il a l'air relativement emmerdé. Et comment vous le soutenez? Comment ça se passe pour lui? Parce que c'est vrai que à travers lui, bien sûr, c'est tous les gens qui ont essayé de se battre contre ces lois pourries, quoi.
C'est clair que le cas particulier du camarade, donc je connais le camarade, mais moi je ne l'ai pas pris personnellement en charge. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la violence d'une fermeture d'entreprise, comme les camarades de Goodyear la connaissent, comme des camarades de Caterpillar la connaissent en Belgique, comme des camarades de chez ING, qui est une institution bancaire, la violence de ces fermetures-là, personne n'en parle jamais. Quand vous arrivez au boulot et qu'on vous dit ben demain tu n'es plus là, donc toute cette violence-là, on n'en parle pas.
Et puis la violence du flic, là, voilà. Parce que dis donc, il avait l'air sévère celui-là, c'est un gros facho.
C'est vrai qu'il y a la répression et la violence policière. Donc c'est quelque chose qui existe. Mais moi, je mets toujours plus en avant la violence d'un système et la violence et la répression des temps. Puisqu'on voit bien que la dynamique est la même partout et que c'est vraiment une répression d'un système et une répression d'un État. On peut mettre peut-être la police en avant. Dans la police, il y a des mecs qui aiment bien tabasser. Bon, j'en ai connu pas mal et dans des manifs, j'en ai connu pas mal et de manifs qui étaient vraiment, qui étaient assez violentes. Mais moi, je mettrais plutôt en avant, plutôt que le fait de m'arrêter sur la police même, le fait de mettre en avant que c'est vraiment une répression d'un système, une répression d'un État qui est consciemment organisée. Et je vais dire une chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, en Belgique, pour le moment, il y a des camarades qui ont simplement eu le droit de manifester contre la fermeture de leur outil, qui est ArcelorMittal à Liège, et qui maintenant sont poursuivis par une section de la police en Belgique qui s'appelle la section antiterroriste. Donc, c'est de mettre en avant qu'à un moment donné, quand on est résistant, quand on lutte, quand on s'oppose à un système, on devient des terroristes, on devient des mecs puants, on devient des délinquants. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en avant et que nous, hommes et femmes de gauche, je crois qu'on doit avoir en tête qu'on ne doit pas quelque part s'en étonner. Si je m'en étonnais, c'est que je n'aurais pas compris grand-chose au système. Donc je veux dire, il y a une logique là. Maintenant, on doit s'y opposer, évidemment, mais je veux dire, et la répression policière, la répression étatique surtout, et du système, elle est la même par-delà les frontières.
Ben merci beaucoup à tous les deux. Merci.
Avec beaucoup de plaisir.
Moi, camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes. Bref, nos peines sont les mêmes. On se démène pour éviter l'abattoir. Ouais, je me démerde, merde, sans perdre vu l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage, une cassos. Prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie. Issue d'une génération endormie par la matrice. Enfant de l'insomnie, bordé par le macadam. Percé par le vague à l'âme, appelle-moi camarade. Cause d'un monde bien malade, tout le monde s'en bat la rage. Braque les haut-parleurs avec des rimes dans lesquelles parle la rage. Anti-norme, impossible à encarter. Autonome comme les anards à cran, comme les frères de quartier. C'est leur tunir car l'urgence nous rattrape.
Baby, here as I am, pull me close down. Understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand and as the sun descends.
Donc on écoutera la deuxième partie des Goodyear d'Amiens des 19 et 20 octobre la semaine prochaine. Le rendu du jugement devra avoir lieu en janvier, donc on aura largement l'occasion d'y revenir. Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de Calais et puis de ce qui se passe un petit peu, pour suivre un petit peu de ce qu'on fait, puisqu'on fait des émissions de radio sur des thèmes, et puis généralement, on essaye de temps en temps de suivre ce qui se passe sur place. Donc, tout à l'heure, j'ai téléphoné à la personne que vous avez entendue, pour ceux qui écoutent régulièrement nos émissions, qui fait partie du blog Les Passeurs d'Hospitalité, qui m'a expliqué un petit peu la situation à Calais. Alors, effectivement, le bidonville est rasé, il y a autant de flics qu'avant, voire plus, il y a des contrôles aux faciès partout. C'est la chasse vraiment à tout ce qui serait basané, avec des tas d'erreurs de la police, puisque de toute façon, à Calais, il y a aussi des basanés qui ont une carte d'identité même française, et qui se retrouvent de temps en temps dans la rue et qui se font contrôler comme c'est pas possible plusieurs fois par jour. Voilà. Alors, on en est là à Calais. Alors, les mineurs sont aussi partis. Il y a Ils essayent de se renseigner pour voir un petit peu ceux qui étaient dans les centres de rétention, ceux qui sont devenus. Est-ce qu'il y a eu des charters vers un certain nombre de pays? Ça, ils ne savent pas pour l'instant. De toute façon, dès qu'ils le sauront, ils le feront savoir et nous, on vous en parlera. Il y a eu aussi le fait, et là, j'ai posé la question puisque j'étais intéressé, puisque demain sur Reims, il y a une ONG qui s'appelle Utopia 56 qui fait une réunion à la fac pour essayer de recruter, il faut dire très clairement, mais c'est pas péjoratif, pour recruter des jeunes. Quand on va à la fac faire une réunion, c'est pour recruter des jeunes qui pourraient faire dans l'humanitaire. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur Internet, qu'est-ce que c'était que cette association Utopia 56. J'ai vu des choses, bon, humanitaires, pas très politiques, si ce n'est que quand même, ils avaient participé à la gestion de la fin du bidonville à Calais. Alors donc, j'ai demandé à Philippe, mon interlocuteur, qu'est-ce qu'il pensait de Utopia 56. Là, il a bien rigolé en disant, ben, bon courage, nous, on est très contents qu'ils soient partis. C'est une association du même style que France Aide d'Asile, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont géré la fin du bidonville. Alors pourquoi Utopia 56? 56, c'est le Morbihan. C'est parce que tout simplement, la personne qui est le chef de cette ONG gérait avant le Festival des Grandes Charrues, d'accord? Et maintenant, c'est lancé, depuis quelques années déjà, dans la gestion des camps de réfugiés. Et oui. C'est ainsi qu'il a essayé, ils sont débarqués à Grande-Synthe, c'est près de Dunkerque. Là aussi, il y a un camp de 1500 personnes. Et là, ils ont été, assez hégémoniques, ça a eu pour conséquence que beaucoup de gens de Grande-Synthe, au niveau associatif, des gens de bonne volonté, ont été un peu écœurés et se sont barrés, ont traîné des pieds pour faire quelque chose parce que tout simplement, Utopia 56 prenait vraiment tous les draps, quoi. Alors ensuite, ils sont arrivés à Calais et pour Calais, ils ont géré. La fin du bidonville, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à être assermentés au niveau de la préfecture pour faire le tri des immigrés, des migrants, des exilés, dans les CAO, centres d'accueil et d'orientation. Et maintenant, eh bien, ils se dispatchent en France pour essayer de voir où sont passés ces exilés qui étaient à Calais pour faire la suite, c'est-à-dire le service après, pas après vente, mais après la fin du bidonville. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association? Ben voilà, c'est une association humanitaire comme il y en a des tas d'autres qui, c'est un business comme un autre. Bon, alors. Je pense que on peut être respectueux par rapport au fait que ils font l'humanitaire, c'est déjà pas mal. D'un autre côté, n'attendez-vous pas à avoir une quelconque réflexion politique sur les migrations internationales à travers le monde dans ce type d'association. Ils sont là pour les couvertures, les repas et pour faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisqu'ils seront demain à la fac à Reims, à 14h, je crois.
Bon, on pourra éventuellement leur poser quelques questions, voir leur projet, et puis voir ce qu'ils ont à dire sur cette question-là. Hein.
Leur projet est humanitaire, c'est clairement, tu vas sur leur site, t'as compris, quoi. Voilà, c'est tout. Hein.
Bon. Pourquoi pas, mais de toute façon, ça réglera pas la question. C'est vraiment faire le boulot, se substituer au boulot de l'État, quoi.
C'est ça.
Merci les assos, quoi. Alors, on voulait vous parler de plein de choses ce soir, donc c'est pour ça aussi qu'on avait découpé ce son en deux, parce que il se passe des choses, alors pas seulement dans notre ville, hein, il y a une lutte intéressante en ce moment des agents municipaux, hein, il y a eu une petite tentative d'occupation de la mairie cet après-midi, ça a été un petit peu l'angoisse chez nos et les élus.
Ah, ça a été chaud.
Qui ont vu débarquer les gens qui travaillent pour eux, et puis d'habitude, ils ne voient pas ces gens-là. Alors quand ils veulent leur demander des comptes, bon voilà. En gros, les revendications, on y reviendra certainement, je l'espère, avec eux. Mais les revendications, c'était la fin du gel des salaires, hein, puisque ça fait pratiquement 3 ans pour certains d'entre eux que leurs salaires n'ont pas été augmentés. Mais comme vous le savez, si vous avez l'occasion d'avoir des fois des billets dans votre poche, la vie, elle, augmente et forcément c'est pas en adéquation, donc on reviendra là-dessus. On voulait aussi vous parler, on en parlera un peu plus des Kurdes et de la Turquie, parce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant ce week-end, mais on voulait aussi vous donner des nouvelles, puisque comme tu l'as dit Denis, c'est important de suivre les choses, et c'est surtout important quand ça gagne. Parce que aujourd'hui les luttes, elles sont longues, elles sont dures, elles sont parcellaires, mais des fois elles gagnent, et je crois que C'est un slogan qui est pas de nous, mais bon, on l'utilise quand même. Oser lutter, oser vaincre, des fois ça marche. Alors pour ceux qui se rappellent, qui suivent un peu les Grégoire, on avait parlé il y a très très longtemps des grèves de travailleurs et de travailleuses sans papier dans Paris, qui avaient donné un très très grand et fort mouvement il y a maintenant 5 ans peut-être, qui avait abouti pour certaines à des régularisations. Mais cette question de la thématique des travailleurs et des travailleuses sans papier, elle a pas disparu, elle est toujours là. Et on vous avait parlé ici en 2014 certainement, et après, d'une lutte extrêmement intéressante de femmes dans un salon de coiffure dans le 10e arrondissement, au boulevard de Strasbourg, ce qu'on appelle le quartier Château d'Eau, pour la petite Afrique, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Et donc effectivement, au sortir du métro Château d'Eau, il y a plein de salons de coiffure africaine.
Ouais, j'ai failli me faire tondre, moi, d'ailleurs.
D'accord. et aussi de manucure. Alors, en plus, comme vous le savez, l'industrie du service, c'est quelque chose qui est assez rentable, puisque les gens ont à la fois plus le temps de s'occuper d'eux, il faut bien qu'ils bossent. Et puis, dans Paris, il y a encore des gens qui ont un peu de fric, tous ces cadres qui aiment bien être bien mis. Alors, il y a une concurrence, et puis il y a eu un espèce d'arrivée de petits capitalistes mafieux là-dedans, et qui ont créé des dizaines, voire des centaines de salons de manucure low cost et de coiffure low cost. Et ça serait intéressant.
Ça existe sur Reims.
Ça existe un peu sur Reims.
J'en connais deux.
Ouais. Et ça serait intéressant aussi, si on replace ça dans une perspective un peu plus capitaliste du travail, de voir comment à l'intérieur des formations professionnelles, notamment pour les filles, il y a eu toute une partie justement des gens qui étaient auparavant dirigés vers des types d'emplois semi-industriels, qui vont vers le service et qui sont justement formés, on va dire, le plus rapidement possible à ce genre de taf. Mais effectivement, on a des salons qui apparaissent un peu partout. Alors il y a des gens qui essaient de se mettre à leur compte, mais il y a aussi des gens qui investissent. On parle aussi ici du ménage, du ménage, des devoirs, d'aller chercher. Donc tout ce travail qui était auparavant du travail vivant, et ben comme le capitalisme, il a horreur du vide et de la nature, et ben il s'engouffre là-dedans et il le transforme en travail mort. Alors je digresse, je m'éloigne. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que dans ce salon, ben il y avait deux types d'exploitation. Il y avait au premier étage de la manucure avec des Asiatiques. Et au second étage, de la coiffure avec des Africaines. Et les deux parties du salon ont fait grève avec occupation en dénonçant les conditions de travail et également, évidemment, la question des papiers. Et là, après longtemps, donc 2 ans, au début novembre, le tribunal de Paris vient de rendre son verdict. Donc il y a eu cette lutte et puis il y a eu une action judiciaire. Pourquoi il y a eu une action judiciaire? Parce que les 18 employés du salon de coiffure avaient dénoncé les contrats de travail, dénoncé le paiement, dénoncer les conditions de travail, vapeur toxique, travail dissimulé, emploi de ces personnes en situation irrégulière, absence d'aération, pas de toilette, installation électrique hors normes, etc., etc., etc. Et quand ils sont allés au tribunal, le patron, on va dire son nom pour une fois qu'on a son nom, monsieur Walid Daoulat, avait vite proposé du fric pour pouvoir essayer de rattraper les arriérés de salaire et tenter de liquider l'affaire, quoi, pour aller en rouvrir une après, évidemment. Mais donc, sentant qu'il y avait quelque chose, les salariés ont déclenché une action en justice, aidés en cela par une structure à Paris qui s'appelle le Clic P, qui est une structure très intéressante qui travaille avec des comités de soutien, avec aussi des groupes qui sont pas forcément à l'intérieur de l'Union locale 75 de Paris, mais le Clic P va être spécialisé sur le commerce et la restauration, quoi. C'est notamment eux qui font un gros travail contre le travail du dimanche.
Ouais, c'est lié à la CGT ou pas?
Oui, c'est la CGT.
Oui, enfin, voilà.
Mais c'est à la fois des gens qui, sont pas totalement appuyés par la CGT, puisqu'ils ont une démarche de collectif, et puis surtout, c'est des gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que on a l'impression ici qu'on a une espèce de syndicalisme à la fois d'action directe, puisqu'on on ne s'économise pas le fait de soutenir des occupations, mais aussi d'aller en justice. Et on a une démarche prioritaire vis-à-vis de tous ces précaires, ces salariés et ces travailleurs sans papier, ce qui est évidemment, on le sait, ici des gens qui vont pas cotiser tout de suite au syndicat et qui sont pas super intéressants en termes de ce que ça représente, quoi. Pareil, c'est un secteur sur lequel les syndicats ne vont pas, ou ne, parce que c'est très difficile, évidemment c'est difficile. Et donc voilà, et alors les deux patrons, Walid Daoula et Mohamed Bamba, ont été condamnés à 2 ans de prison, dont un avec sursis. Donc 1 an de prison ferme et des peines d'amende assez énormes. Bon, il y a 18 personnes, hein, donc ça fait un mois de prison par employé. On n'est pas en train de se réjouir qu'il y ait des tauliers qui aillent en tôle. C'est pas ça. Mais vous imaginez ce que ça veut dire quand même de condamner quelqu'un à 1 an de prison, surtout quand c'est un taulier, quoi. Surtout quand c'est un patron, quoi. Bon, on imagine donc que le dossier devait être énorme.
Il était gros. Ouais.
Voilà, où il était bien préparé. Et je dis ça parce que quand on parle de la lutte des classes, de la nécessité de faire la contre-info, etc., etc., voilà aujourd'hui ce qu'est la réalité de la société, hein. Voilà ce qu'est aujourd'hui la réalité de l'exploitation, en partie, mais pas seulement. Un autre exemple, en ce moment, il y a Vinci qui est devant le tribunal correctionnel de Paris, puisque on est en train de terminer ce qu'on appelle le réaménagement des Halles, hein, de Châtelet, donc le gros cœur de Paris pour les transports en commun, avec la canopée, donc une espèce de machin fabriqué par un architecte dont on oubliera le nom, et j'en ai même pas envie de le savoir, mais qui a dû vendre du rêve aux bobos et à leurs dirigeants parisiens. Et ben, il y a eu un accident de travail l'année dernière qui a démontré que les conditions étaient lamentables. Et pour une fois, c'est le donneur d'ordre qui est devant le tribunal, quoi. Ouais. Donc voilà, là est la réalité de l'exploitation, ouais. Et là est la réalité de la société et de la justice, hein, de la société. Le travail, c'est un mort par semaine.
Ouais.
On oublie les peut-être même plus.
C'est, hein, plus qu'un mort, un mort par semaine.
Ouais, c'est déjà pas mal quand même. Et des dizaines de blessés, hein, évidemment, des gens qui sont mutilés, qui sont estropiés à vie. Hein. Il y a encore, il y a 15 jours, un intérimaire qui est tombé dans une cuve et qui est décédé. Il avait 24 ans, il n'avait pas
le
truc de sécurité, hein, parce que ça prenait trop de temps. Il y a un apprenti à Rennes qui est mort, il avait 17 ans, il est tombé l'échafaudage parce qu'il n'avait pas été accroché aussi. Donc voilà, ça c'est la réalité du travail aujourd'hui. C'est pas des petits patrons qui galèrent pour payer leurs charges et tout. C'est des travailleurs et des travailleuses qui décèdent et qui sont blessés. Alors, c'est dur de faire une transition, mais on avait promis qu'on vous parlerait de la Turquie aussi, parce que vendredi, samedi, dimanche, il y a les camarades kurdes qui ont posé un petit point sur la place d'Erlon. Constitué d'un
un point d'information,
ouais, c'est ça, hein. Constitué d'une tente, hein, pour essayer d'alarmer et d'attirer l'attention sur ce qui se passe en ce moment en Turquie, et puis d'une manière générale, hein, sur ce qui se passe dans le Proche-Orient et sur la situation des Kurdes en général également. Alors ces camarades-là se sont fait agresser vendredi soir par une bande de nationalistes turcs, hein, certainement. Alors je ne sais pas quelle est la part de nationalistes et de religieux. Faudrait rêver. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, une vingtaine, encadrés par des gens plus anciens, dont certains ont été reconnus comme étant les membres de l'association culturelle de la mosquée de Châtillon, hein, qui est la mosquée turque entre guillemets.
Voilà.
Voilà. Bon, en gros, financée par la Turquie, ça c'est clair.
Oui, c'est ça. C'est ça le plus important, voilà, je crois dire. Hein.
Et donc voilà. L'objectif, bon, ça va. Il n'y a pas eu de casse. Il y a juste une personne qui a été légèrement blessée, mais bon, ça aurait pu dégénérer, quoi. C'était juste une espèce de coup d'esbrousse. Il est vrai que ça fait assez longtemps que les nationalistes turcs à Reims ne s'étaient pas manifestés. Il faut qu'ils réapprennent certainement leur bonne vieille méthode dégueulasse. Mais bon, voilà, quand même, il faudra être attentif et vigilant là-dessus. Et ben, ce que faisaient les Kurdes, hein, c'est qu'ils essayaient d'attirer l'attention sur ce qui se passe en Turquie. Ouais. Puisque, bon, pour les gens qui avaient encore... alors, parenthèse... On vous a parlé un petit peu de la Turquie cette semaine sur les grands médias. Pourquoi? Parce que d'une part, on touchait à des journalistes.
C'est ça. Oui.
D'autre part, on avait empêché un journaliste français, nom de Dieu, de sortir. Ça, c'est vraiment dégueulasse, hein. Donc, il faut absolument en parler.
C'est que... Alors, ce qui m'a étonné tout à l'heure, c'est que il reparlait de la Turquie tout à l'heure. Ouais. Et c'était sur le thème que Erdogan demandait, faisait un ultimatum finalement à l'Europe, donner quelques mois aux Européens pour fixer un délai pour que
pour
la
entrer
Turquie
dans le...
ouais. intègre l'Europe. Donc on verra ce que les Européens vont faire.
Alors pour les gens qui avaient des derniers doutes, enfin pour les journalistes, on va avoir pitié d'eux parce que bon, les pauvres déjà ils n'arrivent pas à prévoir les résultats des élections. C'est compliqué, ils ont des sondages, ça marche pas, le Turc ils comprennent pas, c'est pas français, donc c'est difficile. Bon. Trêve de plaisanterie, la semaine dernière, il y a les deux coprésidents du plus gros parti d'opposition, dit HDP, hein, qui ont été arrêtés avec une quinzaine de membres. Il y a à peu près plus d'une cinquantaine de localités qui ont été mises sous tutelle, avec une occupation et avec des administrateurs de l'État. Il y a un peu plus de 3000 personnes qui ont été arrêtées. Etc, etc. Il y a plus de 130 journalistes en prison. C'est vrai, les pauvres, faut en parler. Il y a... Non, après, on va croire qu'on... On veut pas mettre les journalistes en prison. Hein, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on mesure pas la liberté que par la liberté de la presse. On peut le mesurer aussi autrement, quoi. Etc, etc. Et voilà. Hein, le pseudo-putsch, le putsch, appelons-le comme ça, a en fait servi de prétexte à un basculement vers autre chose. Et il y a un véritable silence de la part des autorités européennes et françaises. Bien évidemment, tu l'as rappelé, d'une part, Erdogan et la Turquie jouent un triple jeu, celui des impérialismes avec la Russie dans la reconquête de l'Irak et du nord de l'Irak, où chacun voit avec un bon œil le dépeçage de cette région et évidemment la possibilité de se repositionner par rapport à l'ennemi allié américain. Donc les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui, hein, la Russie et la Turquie. D'autre part, il est évident que il y a une certaine mégalomanie de la part de Recep Tayyip Erdogan, hein, avec un vrai culte de la personnalité. Ce type se sent investi d'une mission divine. On est là tout à fait dans l'histoire des hommes d'État de la Turquie, où le sultanat et la direction de la Turquie, puisque à l'intérieur de la communauté musulmane de cette région, il y a toujours eu des disputes par rapport au leadership, hein, de ça, hein. Enfin, la Turquie par la gestion des réfugiés,
oui, c'est ça,
et son petit chantage qu'elle joue avec l'Europe, également en parlant des oléoducs, hein, bien évidemment, et par rapport à sa puissance économique et à sa diaspora en Europe, est tout à fait capable d'impliquer un chantage à l'Union européenne en lui disant de ne pas intervertir dans ses affaires au cas où elle lâcherait entre guillemets ses réfugiés. En plus, elle touche du fric avec ça. Donc là-dedans, tout le monde est content. Tout le monde est content, mais évidemment, il y a une réalité, une situation. La situation, c'est que la Turquie, dans son histoire récente, a toujours connu des secousses autoritaires, que ce soit par l'intermédiaire de l'armée.
Oui.
Avec les coups d'État ou là nouveau avec cette espèce de
dictateur, on peut dire, oui.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est une dictature, c'est clair. Un régime autoritaire, très autoritaire. Et c'est comment dire c'est quelque chose que nous, on peut dénoncer, bien sûr, par solidarité avec, avec les peuples de Turquie, mais c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, parce que dénoncer, c'est bien, pouvoir agir, c'est mieux, et agir, comment nous, on peut agir ici en tant qu'internationaliste, c'est en agissant sur notre propre impérialisme. Et c'est effectivement en dénonçant, comme on vient assez de mal le faire, mais en mettant en avant le fait que la politique d'Erdogan, elle s'implique dans un système et dans un espace géographique, et que nous, bien sûr, on peut être solidaire des Turcs, et on sera solidaire des Turcs et des Kurdes qui luttent là-haut et ici, ouais. Mais qu'on doit taper sur notre propre impérialisme. Bien sûr.
Et par exemple, contre ceux qui sont au pouvoir actuellement, le pouvoir socialiste, qui se garde bien de condamner tout ce qui se passe en Turquie, puisque Hollande et sa clique a trop besoin de la Turquie au niveau des réfugiés, puisque la Turquie joue un rôle, dirons-nous, de tampon, de retien, de faire en sorte qu'on n'en ait pas trop ici, puisque il y a, faut le dire, des centaines de milliers de Syriens, entre autres, mais pas que, qui sont dans des camps en Turquie. Et la Turquie, d'ailleurs, est financée par l'Europe pour ça. Mais on voit mal, effectivement, le gouvernement français aujourd'hui, comme demain, comme hier, dénoncer Erdogan comme à une époque il y a eu la même chose avec Kadhafi jusqu'à temps qu'on le lâche. Mm-hmm. Peut-être d'ailleurs que la France peut lâcher Erdogan quand la situation changera.
Craignos, ouais.
Ouais, sera moins craignos ou aura changé. Mais c'était un peu la même chose par rapport à toutes les dictatures finalement. À chaque fois qu'il y a une dictature quelque part, si la France a des intérêts que avec ce dictateur, ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Hein. Bon, quand il n'y en aura plus, ben, on lâchera ce dictateur en question.
Et puis aussi, ça nous permet de nous démarquer de la gauche, qu'elle soit stalinienne ou social-démocrate, puisque ici, on a quand même des choses qui sont assez... Bon, c'est loin, hein, il faut pouvoir se renseigner, avoir le temps, mais on est toujours mieux renseigné quand on va directement au contact des gens. Je m'explique. Les gens du HDP qui ont été arrêtés ont toujours été présentés comme des pro-Kurdes ici.
Bon, oui.
À des charges, ici, la vision d'un parti dans nos États-nations occidentales et plus particulièrement en France, c'est des gens qui vont conquérir le pouvoir et qui vont faire une alternance. Or, c'est pas ça le HDP. C'est pas seulement un parti pro-Kurde. J'irais même jusqu'à dire que c'est pas un parti pro-Kurde.
C'est
un front.
C'est un front déjà. Oui.
Qui est issu du mouvement social de Gezi. Hein, notamment, mais pas seulement, et aussi de toute l'histoire de la lutte du peuple kurde, mais aussi d'autres peuples, des Alévis, etc., etc., mais aussi de la gauche, mais aussi des écologistes, etc., etc. C'est un parti qui proposait plutôt que de aller vers le pouvoir, même s'ils avaient besoin d'une représentation politique, de créer à l'intérieur des structures où ils pourraient être élus des processus. Comment dire, de transformation de la gestion de la société. Alors, il était évidemment très influencé par certains écrits, comme on a dit ici, le confédéralisme démocratique, mais c'était vraiment quelque chose qui... alors, c'est aussi un parti, pardon, qui est très important, hein, puisqu'on dit que c'est un procureur, qui défend toutes les minorités. Il y a des Arméniens, hein, dans ce parti, hein. Il y a des gens qui ont la double nationalité, hein, c'est le seul, hein, au Parlement en Turquie qui pose ce truc-là, quoi. Et donc... C'était un parti qui défendait aussi et qui apportait un processus politique qui était à l'œuvre au Rojava, mais qui avait aussi des choses, qui a des choses aussi intéressantes à nous apporter en tant que réflexion politique sur nous, ce qu'on fait ici et au niveau de la représentation qu'on a. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller voir les camarades kurdes et de tenter de faire quelque chose, une communication autour de ce qui se passe en Turquie, de défendre. Et puis, en ce moment-là, nous, on se retrouvera dans la réalité de nos rues à Reims pour pouvoir en discuter clairement et échanger autour de ça. Et vous allez voir, c'est vraiment plus qu'intéressant et c'est pas seulement un truc typiquement de dictature, quoi.
C'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter, vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Del Rigor. Chaque semaine, sur les Côtes d'Igarigue, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.